VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 1er mars 2016. En direct de Washington, Bagassi Koura et Michel Joseph. Voici les titres.
Des chiites du Nigeria accusent le gouvernement de détenir illégalement un de leurs leaders depuis plus de 2 mois à la suite d'affrontements meurtriers avec l'armée.
En Égypte, le coordonnateur du mouvement du 6 avril a été condamné à 3 ans de prison.
Et cette question ce matin, dialogue ou négociation au Burundi?
Ce qui utilise le terme dialogue aujourd'hui était dans le temps, ce qui demandait des négociations. Quoi qu'il en soit, on finira par négocier.
La réponse d'un ancien président du pays, Sylvestre Ntimbantu Gagnia.
C'est super mardi aujourd'hui ici aux États-Unis. Des primaires ont lieu dans une bonne dizaine d'États.
Et dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Des chiites du Nigeria accusent le gouvernement de détenir illégalement un de leurs leaders depuis plus de 2 mois à la suite d'affrontements meurtriers avec l'armée. Les précisions de John Lyndon.
Selon des militants de droits de l'homme, quelques 300 membres au moins du mouvement islamique du Nigeria, IMN, ont été tués lors des violences en décembre. On est également sans nouvelles de centaines d'autres qui seraient morts ou détenus. Les violences avaient éclaté le 12 décembre à Zaria, fief de l'IMN, où un barrage érigé par le mouvement en vue d'une procession religieuse avait bloqué un convoi du chef d'état-major des armées, le général Tukur Yusuf Buratai. Les militaires ont accusé des partisans du chef de l'IMN, Ibrahim Zak Zaki, d'avoir tenté d'assassiner le général, une accusation catégoriquement démentie par le groupe chiite. Human Rights Watch a estimé que l'affrontement de Zaria représentait au mieux une surréaction brutale, au pire, une attaque planifiée du groupe de la minorité chiite.
L'édition 2016 de l'exercice militaire annuel Flintlock, organisé par les États-Unis en Afrique, a pris fin hier à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, après 3 semaines de manœuvres des armées de 28 pays. Lancé le 8 février à Thiès, Flintlock 2016 a mobilisé quelque 2200 membres des forces spéciales de 28 pays au total à travers le Sénégal et la Mauritanie voisine, a indiqué le général David Rodriguez, chef d'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, qui organise Flintlock depuis 2005.
Les autorités du Congo-Brazzaville justifient leur décision de refouler à la frontière un responsable d'Amnesty International, alors que ce dernier détenait un visa valide, une lettre d'invitation et des confirmations de rencontre avec notamment le ministre congolais de la Défense et des représentants du ministère de la Justice. Des détails avec vous, Nanif Talani.
Le directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale d'Amnesty, Stephen Cockburn, s'est vu refuser l'entrée au Congo-Brazzaville dans la soirée du 26 février. Son passeport a été confisqué et il a été détenu à l'aéroport jusqu'au lendemain matin, puis mis à bord d'un vol retour pour Dakar. Selon les autorités de Brazzaville, Amnesty International fait des rapports à charge sur le Congo. C'est le cas avec l'opération Bateabakolo, une opération qui a permis le rapatriement de milliers de ressortissants de la République démocratique du Congo en 2014, souligne une source gouvernementale jointe par l'AFP. La même source déclare, je cite, « On a l'impression qu'ils écrivent à distance sans connaître le Congo et viennent chercher les éléments a posteriori ». Amnesty International a jugé inacceptable ce refus des autorités de Brazzaville de laisser entrer leurs enquêteurs dépêchés pour assurer un suivi indépendant de la situation des droits de l'homme avant la présidentielle du 20 mars.
En Égypte, le coordinateur du mouvement du 6 avril a été condamné à 3 ans de prison ainsi que 3 autres membres de cette formation interdite. Des détails avec Idriss Fall.
Amr Ali, coordinateur du mouvement du 6 avril et ses 3 compagnons ont été condamnés à 3 ans de prison et 60 euros d'amende chacun. Monsieur Ali est en détention depuis septembre 2015. Ses compagnons ont été jugés par contumace. Ils étaient tous accusés de posséder des tracts appelant à renverser le régime, de participer à un mouvement illégal, d'appeler à la grève et aux troubles. Leur avocat Anas Saïd a contesté ce verdict, disant que l'accusation n'avait fourni aucune preuve. Plusieurs leaders de ce groupe sont derrière les barreaux, la police égyptienne les accusant d'incitation à la violence.
20 soldats britanniques se rendront en Tunisie pour aider le pays à sécuriser sa frontière avec la Libye. Le groupe État islamique est aux portes de l'Europe. Les précisions de Lionel Gaïma.
Michael Fallon, ministre de la Défense, l'a annoncé aux députés britanniques. Une équipe de 20 soldats ira en Tunisie pour aider ce pays à lutter contre les infiltrations depuis la Libye. Il a répété que Londres n'avait nullement l'intention de déployer des troupes au sol et a nié toute participation de l'aviation britannique à des opérations en Libye. Le groupe État islamique contrôle Sirte et essaie de mettre la main sur le croissant pétrolier libyen à des centaines de kilomètres des côtes italiennes et grecques. L'Europe inquiète voudrait contribuer à ramener la sécurité en Libye à condition qu'un gouvernement d'union nationale en fasse la demande. Mais la mise en place d'un tel gouvernement se fait toujours attendre car le pays est divisé entre les deux parlements rivaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains ont indiqué lundi vouloir augmenter leur soutien militaire aux forces irakiennes pour reprendre Mossoul, ville occupée par le groupe État islamique depuis la mi-2014. Mélisse Hegel.
Les militaires américains proposent notamment de renforcer leur soutien logistique aux forces irakiennes. Ils travaillent tous deux en ce moment même pour accélérer la campagne de reprise de Mossoul. L'État américain a également affirmé employer des armes informatiques pour perturber le fonctionnement de l'État islamique. Les opérations contre Mossoul auraient déjà commencé. Les militaires irakiens seraient actuellement en train d'isoler la ville. Même chose pour Raqqa, la capitale autoproclamée des djihadistes en Syrie. Les Américains proposent également de faire intervenir leurs hélicoptères d'attaque Apache, ainsi que d'envoyer des conseillers militaires plus près de la ligne de front.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré hier lundi que malgré quelques incidents, la cessation des hostilités en Syrie est globalement respectée. Selon Ban Ki-moon, un groupe d'observateurs veille à ce que les violations soient contenues. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a convoqué une réunion sans délai du groupe de travail pour discuter des attaques aériennes signalées sur les zones tenues par les rebelles. Et ce cessez-le-feu, il faut le dire, a commencé depuis samedi.
Peut-être de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononcera aujourd'hui sur un projet de résolution présenté par les États-Unis et qui imposerait de nouvelles sanctions à la Corée du Nord.
Selon des chercheurs, le virus Zika qui sévit en Amérique du Sud, fortement soupçonné de provoquer des malformations chez les bébés nés de mères infectées, peut aussi déclencher un trouble neurologique grave. Le syndrome de Guillain-Barré. Il s'agit de la première démonstration d'un lien entre le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré, souligne le professeur Arnaud Fontanet, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de l'Institut Pasteur à Paris, qui a coordonné l'étude publiée mardi dans la revue médicale britannique The Lancet. La maladie provoque dans 20 à 30% des cas une défaillance respiratoire et dans les pays riches, environ 5% de décès.
Un sursis judiciaire pour les restaurateurs new-yorkais. La mairie de New York, pour des raisons de santé, veut les obliger à signaler les aliments très salés sur leur menu. Une première aux États-Unis. Un juge d'appel de Manhattan a accepté une demande de l'Association nationale des restaurants pour ce sursis. Sans cette décision de dernière minute, les chaînes de restauration ne signalant pas sur leur menu les aliments très salés par le dessin d'une salière risqueraient une amende de $200 à partir de mardi.
Les plus sceptiques disent que ça devrait arriver un jour. Finalement, hier, on l'a appris, une voiture autonome de Google a provoqué un accident sur une route de Californie. La Lexus convertie en véhicule sans conducteur est entrée en collision à petite vitesse avec un autocar le 14 février. C'est la première fois que Google admet une part de responsabilité du cerveau informatique automobile dans un accident.
Et c'est Super Tuesday aujourd'hui, Super Mardi, aujourd'hui aux États-Unis. Des détails tout de suite avec Eddie Isango.
Selon les derniers sondages, les milliardaires Donald Trump mènent chez les républicains avec 49% contre 16% pour les sénateurs Marco Rubio et 15% pour son collègue texan Ted Cruz. Chez les démocrates, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton reste la favorite avec 55%. Son principal rival, les sénateurs socialistes Bernie Sanders, est crédité de 38%. Pour ce qui est du Super Mardi, Trump est le favori dans 10 des 11 États. Quant à Mme Clinton, on s'attend à ce qu'elle remporte la majorité des délégués en jeu. Chez les républicains, il s'agira de voir si Messieurs Rubio et Cruz remporteront assez des délégués aujourd'hui pour poursuivre leur campagne contre M. Trump qui rejette l'establishment du Parti républicain. La répartition se fera à la proportionnelle. Mais à partir du 15 mars, ce sera différent. Celui qui gagne un État rafle tous les délégués de cet État.
Merci Eddy Sango. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Tout de suite, la Minute Éco, c'est avec John Linden.
6 mois après son assemblée constitutive, le Fonds panafricain Africa 50 va financer une dizaine de projets en 2016 pour un montant d'environ 200 millions de dollars, a annoncé à Jeune Afrique son directeur général Alassane Ba. Le fonds veut également lever 1 milliard de dollars auprès des institutions financières. Africa 50 a été lancé en septembre 2013 par la Banque africaine de développement et la Fondation Made in Africa. Il est dédié au financement des projets dans les domaines de l'énergie, de l'électricité ou des infrastructures. Tournée africaine de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui est accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, a effectué sa première halte en Côte d'Ivoire, avec au menu la signature de nouveaux accords de coopération, mais aussi l'ouverture du Forum économique ivoiro-turc, réunissant le secteur privé des deux pays. Après Abidjan, le président turc poursuit son périple africain au Ghana, au Nigeria et en Guinée. 105 milliards sur une période de 15 ans, c'est le coût du projet de la modernisation de la ville de Douala. Le projet des villes nouvelles, prévu entre Douala et Déa, a été présenté jeudi dernier au public. Un nouveau pôle urbain à la lisière de Douala, la capitale économique du Cameroun, et Déa, la ville lumière. Les déclinaisons du projet d'Ibamba Bish, comme on l'appelle, ont été présentées par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Ce projet devrait permettre la construction de 10 000 logements et de nombreuses autres infrastructures.
Merci John. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique sur l'heure des sports. Bonjour Eric Manirakiza. On commence par du football. L'UEFA nommera ce vendredi le successeur d'Infantino au poste de numéro 2.
Le gouvernement du football européen se réunira dans la matinée au siège de l'UEFA à Nyon. Le grec Théodore Théodoridis s'est pressenti pour succéder à Infantino, mais dans l'attente des suites des procédures pour Michel Platini, le nouveau numéro 2 de l'UEFA occupera le poste par intérim.
En Espagne, Real Madrid, Benzema victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite.
L'attaquant français du Real Madrid pourrait être éloigné des terrains pour une durée de 2-3 semaines. Karim Benzema, de retour d'une blessure à la hanche, a rechuté samedi dernier lors de la défaite du Real dans le derby madrilène face à l'Atlético.
Football toujours en Europe, des bancs très blancs.
Très peu d'entraîneurs noirs sont assis sur le banc d'un club professionnel en Europe. C'est le constat du sélectionneur de la RD Congo, Florent Ibenge. On peut jouer mais pas diriger. Peut-être que le noir est juste fait pour exécuter, a-t-il ironisé. Sur 92 clubs professionnels en Angleterre, on compte 4 entraîneurs noirs seulement. Il y en a un seul en France, sans parler de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Allemagne Bagassi.
Et parlons de dopage maintenant. Abeba Aregawi, championne du monde du 1500 mètres, contrôlée positive.
La Suédoise d'origine éthiopienne a subi un contrôle antidopage positif sans toutefois préciser le produit détecté, a révélé hier la Fédération suédoise d'athlétisme qui a immédiatement suspendu son athlète à titre provisoire. Sacrée championne du monde en 2013 à Moscou, Abeba Aregawi a également décroché le titre européen en salle cette année-là, ainsi que le titre mondial en salle l'année suivante sur la même distance. Et avec toi, Bagassi, les résultats de la NBA, il y a eu des matchs ce lundi soir, n'est-ce pas ?
Oui, Cleveland a défait Indiana 100 à 96. Washington a battu Philadelphie 116 à 108. Utah est tombé face à Boston 95 à 100. Défaite de Houston face à Milwaukee 108 à 112. Et tard dans la soirée, Brooklyn affrontait les Clippers de Los Angeles et Oklahoma City. OKC était aux prises avec Sacramento. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagasikoura de nouveau avec vous en direct de Washington. Nous passons maintenant au dossier du jour. Direction le Niger à présent, pays majoritairement musulman, près de 98% de la population selon les chiffres officiels. À l'occasion du processus électoral en cours, notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pino, vous propose une série sur le phénomène religieux au Niger. Ce matin, Nicolas Pino revient sur les émeutes anti-chrétiens qui ont secoué le pays les 16 et 17 janvier 2015.
Dans sa maison de Niamey, le révérend Kim Sobureima se souvient douloureusement de l'explosion de violence de janvier 2015. Le président de l'Association des missions et églises évangéliques du Niger rappelle que 68 églises, maisons ou orphelinats chrétiens ont été détruits à Niamey, Zindé ou Gouré.
Tout ce qu'il y avait comme grande église en dehors de la cathédrale qui a été sauvegardée, eh bien le feu est passé par là et personne n'était là pour les arrêter. Et le feu a brûlé toute la journée, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait personne pour... Alors Dieu simplement a préservé la vie de quelques chrétiens qui vivent au Niger. Et c'est bien dommage.
Pourquoi de tels actes alors que chrétiens et musulmans vivent ensemble au Niger depuis des siècles? Pas surprenant, selon Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui constate une montée de l'intolérance religieuse dans le pays. Il est socio-anthropologue à l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey.
Ce qui se présente, c'est évidemment pas cette violence ou ces émeutes. Il y a eu clairement, depuis une vingtaine d'années environ, une montée de l'intolérance religieuse. C'est manifesté par des tas de signes. Par exemple, les chrétiens, il y a environ 2 ou 3 ans déjà, avaient remarqué qu'il y avait une campagne de SMS qui circulait au moment de Noël en disant « il ne faut pas aller fêter Noël avec les chrétiens, il ne faut pas leur souhaiter bonne année, etc. » Ce qui était impensable dans le Niger d'il y a 50 ans.
Du côté de l'Association islamique du Niger, on rejette tout amalgame. Les assaillants qui ont pris d'assaut les lieux de culte chrétiens ne seraient tout simplement pas des musulmans. On écoute Boubacar Seydou Touré, le secrétaire général de l'ANI.
Ce n'est pas les musulmans qui ont fait ces débordements. Si vous regardez les images, on voit que ce sont des enfants, des badauds qui couraient dans la ville, parfois d'autres même qui prennent des bouteilles, de l'alcool, qui buvaient et qui criaient à l'Akbar. Est-ce qu'un musulman va le faire? C'est vraiment une révolte des badauds. Ça sent très bien qu'il y a dessous, dans ce lieu, ils nous ont attaqués.
Révolte, le mot sonne juste pour évoquer le malaise social dans un pays où la moyenne d'âge est de 15 ans et où le taux de croissance démographique avoisine les 4%, l'un des plus élevés au monde. Abdoulaye Sounaï est chercheur au Centrum Moderner Orient de Berlin. Il est spécialiste de l'islam au Niger.
La majorité de ceux qui ont brûlé, ceux qui ont saccagé, c'est des enfants. Donc il y a une sorte de désocialisation de la jeunesse nigérienne et qui, à mon avis, est un phénomène urbain. Évidemment, on a un cocktail Molotov social. De ce point de vue-là, les manifestations anti-Charlie n'étaient qu'un prétexte ou un détonateur.
Une chose est sûre, plus d'un an après, les chrétiens du Niger vivent plus que jamais dans la peur. Nicolas Pino, Niamey, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Voilà un clin d'œil à tous nos auditeurs à Niamey et à Zinder au Niger. Au Burundi, 3 experts indépendants des Nations Unies chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme sont attendus ce mardi à Bujumbura. Il y a une semaine, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a effectué une visite peu après le passage d'une délégation du Conseil de sécurité. La semaine dernière, 5 chefs d'État africains envoyés par l'Union africaine leur ont emboîté le pas pour une réaction. Idriss Fall a joint Sylvestre Ntibantunganya, il est ancien président du Burundi.
Moi, je me pose d'abord une question. Pourquoi est-ce que les 5 chefs d'État et de gouvernement n'ont pas parlé à la presse ensemble? Avant, il y a eu le président gabonais qui est parti. Ensuite, il y a eu les 3 autres qui sont partis. Et il y a le président de l'Afrique du Sud qui est resté et qui seul a parlé aux médias. Là, moi, je me pose des questions. Est-ce que les positions qui ont été exprimées sont des positions partagées au niveau de l'ensemble de cette délégation, ou est-ce que ce sont des positions qui peut-être n'engagent que celui qui les a données? Évidemment, ça, c'est une interrogation que j'ai, sans avoir une réponse à donner, une réponse qui viendrait des concernés eux-mêmes. Dans tous les cas, il y a quelque part où tout le monde se convient. C'est que la question burundaise ne trouvera une solution qu'à travers des négociations inclusive, impliquant tous les acteurs concernés par ce conflit, par cette crise.
On parle de dialogue, tout le monde parle de dialogue, mais dialogue autour de quoi? Quelle solution
mais
pour
vous
le
savez,
Burundi?
Dans la vie politique burundaise de ces 25 dernières années, le mot négociation a toujours fait peur quand il était utilisé pour la première fois. Mais au bout du compte, il s'est toujours imposé. Moi, je me souviens du temps où j'étais président de la République. Je parlais de négociations entre mon gouvernement et les autres forces politiques, y compris les forces politico-militaires. À l'époque, on me disait jamais de négociations, mais peut-être un dialogue. D'ailleurs, je m'interroge sur cette reproduction de termes par rapport à des acteurs qui diffèrent. Ceux qui utilisent le terme dialogue aujourd'hui étaient dans le temps. Ce qui demandait des négociations. Quoi qu'il en soit, on finira par négocier. Et il ne faut pas avoir peur de négocier. La négociation partout caractérise aujourd'hui la gouvernance. Partout, on négocie. Le président Obama négocie des fois avec le Sénat, négocie des fois avec le Congrès pour trouver des voies de rencontre afin de résoudre une question qui se pose. Il ne faudrait donc pas qu'on perde le temps dans la sémantique, mais beaucoup plus dans le fond de la question. On devra négocier demain. Laisse à savoir si on accepte de négocier sans préalable, si on accepte de négocier sans condition.
Sylvestre Ntibantunganya, ancien président du Burundi.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En RDC, une ambiance délétère règne dans la course au gouvernorat de la province du Haut-Katanga au sein de la majorité présidentielle. Ce regroupement n'a pas réussi à choisir un candidat unique. Reportage de Narval Nabila à Lubumbashi.
Ils étaient 14 candidats et leurs adjoints qui postulaient au poste de gouverneur et vice-gouverneur du Haut-Katanga. Après publication de la liste définitive par la CENI, 9 candidatures ont été validées et 5 invalidées, dont la plupart ont postulé comme indépendants, mais membres du PPRD. Ou de la majorité présidentielle, certains veulent dénoncer les dictats du bureau politique. C'est le cas du député national Louis Tollet, président fédéral du PPRD Haut-Katanga, qui veut se battre jusqu'au bout malgré les menaces qui pèsent sur lui.
J'ai décidé de me porter candidat gouverneur et indépendant. En fait, depuis un temps, il y a une situation de conflictualité qui est entretenue au sein de notre parti par une frange de gens qui veulent à tout prix contrôler le PPRD au Katanga. Je ne voudrais pas les citer. D'après ce que j'apprends, c'est pour des raisons tout à fait de discrimination, je dirais même tribale. Bon, maintenant, moi, ça m'étonne. Chaque fois qu'il y a un poste à pourvoir dans le cadre du PPRD, ce sont souvent quelqu'un d'autre, souvent des personnes parachutées qui sont nommées.
Malgré les stratégies de la majorité présidentielle du côté G7, on ne baisse pas le bras. Ils se disent prêts à remporter tous les postes dans le Grand Katanga et cela a été annoncé au cours d'un point de presse tenu par Kyungwa Kumanza, président du G7 Katanga. C'est alors qu'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Katanga. Face à ces enjeux, l'ONG Justicia Icebell a publié un communiqué de presse qui fait allusion aux menaces, intimidations et tentatives de corruption des députés provinciaux nomination qui doivent élire le remplaçant du commissaire spécial Félicien Katanga que nous avons rencontré et nous a fait une lecture des considérations politiques et morales.
Vous entrez en politique, vous voyez qu'il y a des problèmes. Il faut savoir prendre le temps de recul. Il faut prendre du recul. La vie politique, c'est peut-être un aboutissement d'un destin ou d'un parcours, humain de quelqu'un, mais ce n'est pas, ça ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que je suis contre et je regarde avec mépris ces gens qui vont en politique et qui se battent même au risque de leur vie pour accéder à un poste. Laissez la population faire son choix.
Lubumbashi Narval Mabila, VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Et puis cette visite que nous avons eue ici à la Voix de l'Amérique d'une délégation de l'association Femmes en danger. Elles sont ici à Washington pour un forum de la Banque mondiale intitulé « Fragilité, conflit et violence ». La présidente Edwige Zoé Dondra qui explique ici avoir largement œuvré pour l'intervention militaire européenne en Centrafrique au plus fort de la crise dans ce pays. Elle est interrogée par Nathalie Barge.
Je suis de formation assistante sociale et que je travaille aussi beaucoup sur ces problèmes-là et que le vice-président de l'association qui est d'origine de la RDC a beaucoup aussi intervenu sur, par exemple, les violences qui ont été faites sur les femmes en Centrafrique bien avant 2013 par les rebelles venus du Congo. La ferme Bemba. Voilà, donc il intervient sur ça. Et ce qui a fait qu'on a eu une jonction. Et on s'est dit, il y a cette violence au niveau international hein, qui relève aussi de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais il y a aussi cette violence qui se fait aussi en temps de paix, de ce que moi je traite tous les jours en tant qu'assistante sociale.
En France, oui.
En France, voilà.
C'est partout pareil. Hein.
Exactement.
Ouais. Il faut bien le préciser.
Tout à fait.
C'est une ONG assez récente et vous avez commencé en 2013 par la sensibilisation, c'est ça ?
Tout à fait, parce que ces exactions se perpétraient tous les jours, on était sur Facebook et on avait des nouvelles atroces qui passaient, des images atroces qui passaient. On n'en dormait pas la nuit. Et c'était la première fois, Centrafrique était un pays très apaisé, qu'il arrive des brutalités comme ça et... je me suis dit, on est peut-être petite comme des gouttes d'eau, mais si plusieurs gouttes d'eau, après on forme une mer. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose.
Alors
donc,
vous avez interpellé la France, le gouvernement français.
Voilà, voilà. Ouais. On s'est d'abord mis d'accord avec l'ami du RDC, qui sait qu'au Kivu, tout ça, ils vivent la même chose. Et on a décidé, non, on doit d'abord commencer par faire cesser la guerre. Et une fois en temps de paix, on peut aller mettre des actions concrètes en place. Donc, alors on s'est lancé, premièrement, ça a commencé en octobre 2013, c'est de saisir d'abord là où on habite, hein, parce que je viens de France. Ouais. Donc c'est de saisir les autorités françaises, c'était Laurent Fabius en premier lieu. Après Laurent Fabius, directement l'Union européenne. Parce que c'est la proximité, l'Union européenne, et nous avions été reçus par Douglas Carpenter, qui est le responsable du secteur des Grands Lacs et de l'Afrique centrale à l'Union européenne, qui a été très à l'écoute. On était vraiment attendus.
Et c'est à partir de là que des troupes européennes ont été envoyées.
Oui, bien sûr. Moi, je peux le dire concrètement. De toute façon, quand on écrit ce genre de saisine, ces mémorandums, ils les gardent dans les fichiers. Et je peux vous assurer que quand on arrivait à l'Union européenne, c'était impressionnant cette foule qui nous attendait, avec Douglas Carpenter devant. Vous vous dites, ah oui.
Voilà, c'était Edwige Zoé Dondra, présidente de l'ONG Femmes en danger.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà quelques notes musicales ce matin. C'est de Rihanna en featuring avec Drake. Et le titre, c'est « Work ».